Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe à Sartrouville, en banlieue parisienne, et c'est la suite de ce qui s'est appelé le Clean Challenge, aussi connu sous le hashtag « Ma cité va briller ». Le défi consistant à briquer sa cité et à poster le résultat de ce ripollinage bienvenu sur les réseaux sociaux. Avec le confinement, les grands frères et sœurs de Sartrouville ont voulu poursuivre dans cette voie de deux façons. La première en trouvant de la nourriture partout où ils pouvaient pour la redistribuer à ceux qui en avaient besoin et au personnel hospitalier. Une initiative qui a reçu un accueil unanime. La seconde façon, rapporte Move et France Info, s'appelle « Clean ton hall » et ça consiste à prendre des gants, des éponges, du désinfectant et des produits ménagers et à nettoyer les halls d'immeubles. L'idée, c'est de remplacer les femmes de ménage qui ne peuvent plus travailler et bien sûr d'éviter, en nettoyant bien, la propagation du virus. Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux de ces grands frères et grandes sœurs montrent ainsi leurs mains gantées et visages masqués briquant des cages d'escalier avec force serpillière, eau de javel et éponge. Toi aussi, nettoie ton hall et envoie-nous la vidéo, encourage la légende. Sauf que rapidement, les pouvoirs publics et la SOS qui a créé le Clean Challenge refusent d'apporter leur soutien à cette initiative. Les jeunes sont accusés de l'utiliser comme prétexte pour ne pas respecter le confinement, comme si laver par terre à l'eau de Javel courbée en deux, c'était vraiment une distraction de choix. Il n'est pas impossible, certes, que certains jeunes en aient profité pour resquiller un brin, mais pour la bonne cause et pas plus que les bourgeois lillois qu'on entendait dans les pieds sur terre il y a deux semaines. Ils sont pourtant rappelés à l'ordre, la seule action responsable, c'est de rester chez soi. Ce deuxième défi est également jugé dangereux pour la santé des jeunes qui pourraient se contaminer de cette façon. Ainsi, les grands frères de Sartrouville poursuivent avec succès leur distribution de nourriture, mais cessent peu à peu de laver les halls d'immeubles. Tout de suite dans les pieds sur terre, ce sont autres histoires de solidarité plus ou moins réussies qui se passent pendant le confinement en banlieue parisienne. Elles ont été enregistrées la semaine dernière par Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Allô ?
Oui, allô ?
Oui, bonjour, vous êtes Ousmane ?
Oui, tout à fait.
Est-ce que je vous dérange ?
Non, non, absolument pas. J'étais en train de préparer quelque chose et ça colle un peu, donc je frappe.
Vous faisiez quoi ?
Un crumble. Ah ouais. On apprend à tout faire pendant le confinement, on essaie de filer le temps. Réussi. Moi, je m'appelle Ousmane. Donc, j'ai 31 ans. Et je suis du club de foot de l'Entente Sportive de Nanterre, dans l'Haute-Seine. Je suis entraîneur de l'équipe senior masculine et directeur de la section football aussi depuis 8 ans. Cette année, on a eu le plus grand parcours de Coupe de France de l'histoire de notre club. Donc on en est arrivé à jouer des clubs professionnels, etc. C'était une première. Déjà dans la semaine des matchs en question, on sentait la vie qui commençait à bouillir un peu, qui commençait à monter autour du stade. Les gens, quand on les croisait dans la semaine, c'est « on se voit dimanche, soyez au rendez-vous ». Voilà. Habituellement, vous savez, on joue devant 50, 70 personnes. Et là, on a joué devant 2500 personnes. On a sur le terrain 11 gamins de la ville, quoi, et qui représentent quasiment tous les quartiers de la ville de Nanterre. Vous voyez, donc il y a une vraie émulation autour de ça, parce que les gens, quand ils viennent voir le match, ils viennent voir leurs voisins, ils viennent voir le copain de leur fils, ils viennent voir le fils de leur ami. Vous voyez, c'est nous, notre équipe est constituée quasi exclusivement de Nanterriens. C'est une deuxième famille, dans le sens où... quand on va au foot, on va pas pour retrouver ses coéquipiers, mais on va vraiment pour retrouver ses frères d'une autre mère, comme on dit dans notre jargon à nous. On perd 2-1 contre Bastia Borgo, mais on sort super satisfait de toute l'expérience qu'on a, on a vécue, quoi. C'était beau. Ah, c'était beau, quoi, d'avoir accès à tout ça. C'est un mix de tellement de choses qu'à la fin, ça fait un cocktail explosif. C'est juste trop beau. Nous, on a senti le soutien Vraiment, là, le soutien populaire lors de ces matchs-là. Et là, il y a une occasion qui s'est présentée de rendre l'appareil, en fait. Une occasion malheureuse, d'ailleurs. Hein. Mais il y a une occasion de se rendre utile. Et bien, on s'est dit, on va le faire. Nous, on a un petit groupé sur WhatsApp aujourd'hui où on échange régulièrement entre nous. Habituellement, ils nous servent pour le foot, mais là, on se tient au courant. On rigole un peu ensemble, etc. Et puis, de fil en aiguille, on en est venu à se dire, bon, on est là, voilà. On peut faire quelque chose, en fait. Donc, on s'est vraiment dit, on va faire un truc à taille humaine. Donc, on a fait une cagnotte qu'on a fait tourner un petit peu entre nous, les joueurs, les éducateurs du club et des proches, pour derrière faire des distributions de colis alimentaires. Ensuite, on a récupéré un petit peu d'argent liquide. Il y en a qui préféraient donner en liquide directement. Donc, moi, je m'étais déplacé pour récupérer chez deux gars qui habitent dans le même coin, on va dire. Donc, ils sont venus dans ma voiture. Et puis, par la fenêtre, ils m'ont donné de l'argent liquide par la main. Il y avait une voiture de police qui passait juste derrière. Et donc, ils ont eu l'impression d'assister à quelque chose de pas très réglo. Donc, ils sont venus vers nous, ils sont arrêtés, ils sont descendus, ils nous ont demandé qu'est-ce qui se passait. Ils ont fait un petit contrôle d'identité. Mais en fait, tout s'est super bien passé. Donc, ils sont partis de leur côté, on est partis du nôtre. Ça leur a plu, tout simplement. Voilà. C'est quelque chose. En tout cas, moi, l'agent avec qui j'ai beaucoup échangé, j'ai vraiment senti qu'il était sensible à la démarche. Les colis, en fait, ils viennent des sommes qu'on récolte. Et puis d'ailleurs, on fait des courses, comme des grands garçons. On fait les courses nous-mêmes. Plusieurs fois parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'aliments qui sont limités en quantité. Quand on arrive, on nous dit c'est 5 maximum. Vous voyez, bon, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'on y va, on peut faire à peu près 5 colis, quoi. Moi, pour faire ça, moi, je me suis renseigné chez une association sur Nanterre qui fait des livraisons de colis comme ça un peu à l'année. Et je leur ai demandé, voilà, comment est-ce qu'ils composaient, eux, leurs colis alimentaires, qu'est-ce qu'ils mettaient dedans, etc. Et puis, ils m'ont dit, voilà, nous, ça. Et puis, on a fait pareil. Hein. On n'a rien inventé, pour le coup. On va dire, on a pris exemple sur ce qui se fait déjà de bien. On a voulu jouer la carte de sécurité, pas se tromper. Pour le moment, on est autour de 1000 euros. On se dit que à 70 colis, on serait bien. À 100, on va dire, c'est l'objectif. Sachant que les colis, en termes de valeur, il y en a pour à peu près 30 euros.
Et il y a quoi dedans?
Ben attendez, je vais vous le dire. On l'avait marqué. Alors, il y a 1 kg de sucre, 2 litres de lait, 2 kg de pâte, 1 litre d'huile, 500 g de thon, 1 kg de farine, 1 kg d'haricots verts en conserve, 1 kg de petits pois en conserve, 500 g de pain de mie, 500 g de confiture, 12 gourdes pour de compote pour enfants, 1 kg de cacao en poudre, un sac de pain au lait, il y en a 10 pièces dedans, et un sac de peach fraise, voilà, où il y a 10 pièces dedans aussi. On essaie d'aller au béaba, quoi, au basique. Voilà, on essaie, j'ai envie de dire, de mettre du goût, un peu comme on dit, en rigolant entre nous. C'est ce dont les gens ont besoin, en fait, quoi, concrètement. Ils ont pas besoin d'M&M's ou de... je ne sais quoi d'autre. Voilà, on essaie de le faire comme on peut. C'est très compliqué de sélectionner des gens par ordre de priorité. Une fois qu'on sort de notre petite bulle, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde pour qui cette période, elle est très, très difficile. Parce que moi, j'ai rencontré une dame qui m'a mis dans la confidence, qui m'a dit que ça lui faisait beaucoup de dépenses parce que ses enfants mangeaient habituellement à la cantine pour pas grand-chose. Mmh. Parce qu'à Nanterre, c'est sur le quotient familial que le tarif il est calculé. Et que là, elle se retrouve à devoir... par semaine, faire une trentaine de repas en plus dans la semaine, qui sortent de sa poche. Et c'est vrai que c'est des situations dont on n'a pas connaissance si on se frotte pas un petit peu au terrain. C'est pas toute l'équipe, parce qu'après, je pense sincèrement aussi qu'il faut essayer de garder une certaine organisation. Là, je reprends mon rôle d'entraîneur. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire 3 voitures de 2. On a des masques. Et on verra, ceux qui ont le temps, ceux qui peuvent. Mais on sera jamais plus de 6 pour ratisser la ville. Voilà, on va éviter les regroupements, on va éviter de se mélanger, on va éviter de faire plein de petites choses bêtes et stupides. En voulant faire du bien, faudrait pas qu'on se trouve à se faire du mal les uns aux autres, quoi. On est à Nanterre, au Pablo Picasso. On a un coin où c'est un peu plus... quartier dans le sens où ça traîne beaucoup, où il y a différents trafics, etc. C'est un coin qui, quand ça chauffe à Nanterre, il y a des chances pour que ce soit au Pablo Picasso. Il n'y a pas que là-bas, mais il n'y a pas que ça, en fait. Vous voyez, même là, quand j'en parle, ça me saoule parce qu'il n'y a vraiment pas que ça. C'est compliqué d'amener les jeunes, on va dire, à penser qu'ils pourraient, eux, changer des choses, changer la donne, en véhiculant un message plus positif. Après, il faut vivre dans ces quartiers-là pour comprendre aussi. Il faut vivre. Il y a des tours de 32 étages. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Voilà, ça commence à faire haut, donc ça fait du monde dedans. Donc, si tout le monde sort un petit peu, je vous laisse imaginer. J'ai grandi dans les mêmes conditions qu'eux. Moi, j'ai une grande famille. On est 10 enfants. On a grandi dans un F5. Et c'est pour ça que je vous dis que dans des conditions comme ça, moi, je pense qu'à leur âge, à leur époque, je ne serais pas resté chez moi. Je ne serais pas resté chez moi. C'est pas possible. Toute la journée comme ça, non. Quand c'est pour rentrer manger, dormir, faire ce qu'il y a à faire à la maison, bon, ok, mais pendant 2 mois quasiment, 24 heures sur 24, comme ça les uns sur les autres, non, c'est pas possible. Et donc, il faut faire changer des choses. Il faut, je pense, améliorer le quotidien des gens et peut-être qu'après, on pourra leur demander de se soucier du quotidien des autres. La fierté, c'est le cas de le dire. Moi, je le suis, je sais que les joueurs le sont. C'est quelque chose qui va rester.
À ma fenêtre, je vois la grande mairie avec son clocher et tout. J'ai une grue de travaux. J'ai les bâtiments en face. Et je vois les grandes tours à droite de la Défense. Et ce qui est tout droit devant moi, c'est le Sacré-Cœur. Et j'entends les sirènes de la police.
C'est ça que j'entendais, c'est ça?
Voilà, oui. Voilà.
Ça passe beaucoup?
Tout le temps. Nuit et jour, tout le temps. Je m'appelle Mebruka. J'habite la Courneuve, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Je suis maman de 3 garçons. Que j'élève seule depuis 1996. J'étais la dernière habitante de la barre de Bissy dans les 4000. Et quand ils ont voulu casser la barre, j'ai eu ce logement où je suis là, au centre-ville de la Courneuve. Ils m'ont donné un logement, malgré mon handicap, au 11e étage. J'ai demandé un logement adapté en rez-de-chaussée, tout ça. Ils m'ont quand même proposé au 6e étage. Ils m'ont fait quand même cadeau de 5 étages. Et j'ai un déséquilibre dans ma colonne vertébrale, mon bassin, j'ai une boiterie. Quand je suis confinée, quand l'ascenseur est en panne, je sors pas. Je suis avant-dernière, il y a 7 étages ici. J'ai un grand appartement. Mes fils ont chacun leur chambre. Et actuellement, la CAF me verse 412 euros. Et heureusement qu'un de mes fils qui est devenu ingénieur, qui travaille et m'aide un peu, sinon je ne pourrais même pas me nourrir, quoi. Parce qu'avec 412 euros, si je paye mon loyer, j'aurai rien. Quand même, l'assurance, on doit la payer. L'électricité, on doit payer tout ça. Donc, j'en ai vu pas mal de galères dans ma vie. Et maintenant, je rencontre une autre galère. C'est ma retraite qui ne m'est pas versée depuis que je suis en retraite en janvier. J'ai 62 ans depuis janvier. Mais que je n'ai pas encore percé ma retraite. Donc c'est très pénible, c'est très difficile en ce moment de confinement où on est coupé du contact, on ne peut pas aller voir une assistante sociale, où on ne peut pas aller à la CAF pour demander de l'aide. Donc c'est vraiment très difficile. Je suis certaine qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui sont dans ma situation et galèrent. Et donc on a fait une pétition pour demander la suppression des loyers pour les plus démunis, pour demander l'annulation des loyers pendant cette période difficile du confinement. On a dépassé les 2000 signatures. Je dormirai mieux, je n'aurai pas une grande dette. Pour le mois de confinement, sera déduite. C'est des courses en plus qu'on va manger. Moi, personnellement, je suis confinée depuis le 16 mars. Je n'ai pas mis le pied après ma porte. J'ai très peur d'attraper parce que je suis devenue asthmatique. Et j'ai respiré pas mal de poussière, et puis dans les immeubles, il y avait de l'amiante. Quand on a besoin des petites courses, un de mes fils sort même pas une demi-heure parce que le magasin il se trouve en face. J'ai des gants qui me restaient de mes teintures. Dans les boîtes de teinture, ils me mettent tout le temps des petites capsules dedans, il y a des gants. Donc je donne à mon fils les gants de cette capsule et il met un masque qu'on utilise toujours le même. Il rajoute des mouchoirs en papier dedans à l'intérieur. Et on le réchauffe aussi un peu quand il revient avec le sèche-cheveux pour tuer le microbe. Donc je passe un chiffon javelisé sur les courses, sur le caddie, sur le sac. Je prends mes précautions. Avant le confinement, moi je sortais, je regardais les promotions. Donc je vais chez Carrefour quand il y a une promotion à Carrefour. Je vais un peu chez Lidl. Je vais un peu chez Leader Price. Mais là, avec le confinement, on est obligé d'aller au magasin en face. Un kilo de tomates, il est à 3 euros et quelques, presque il avoisine les 4 euros. Tout a augmenté. Un kilo de farine à 1 euro et quelques, tout a augmenté. Moi, je ne vous cache pas, un jour, mon fils est parti me faire un peu de course, il n'a rien trouvé. Il est revenu avec des soupes chinoises, là, les nouilles, les pots dans lesquels on rajoute l'eau chaude. Il n'a pu rapporter que ça. Dans la journée, le stock est consommé. Mais avec des soupes, on mange comme on peut. Et Dieu merci, on ne crève pas de faim. Mais on mange, je fais des pâtes, je fais du riz, je fais des lentilles, je fais des pois chiches, je fais des haricots blancs, je fais des marmites. Moi, je mange un repas par jour, mais je fais un peu plus. Et si les enfants ont encore faim, ils peuvent se resservir une deuxième assiette. J'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui m'ont proposé leur aide. J'ai une amie que je connais que via Facebook, que j'ai jamais rencontrée en chair et en os. Et elle m'a donné son numéro de téléphone et elle m'a proposé de me prêter entre 500 et 700 euros. Ça m'a touchée, ça m'a fait couler mes larmes qu'il y a encore des gens bons dans la vie. J'ai décliné leurs aides parce que je ne meurs pas de faim. Je leur dis, il faut aider ceux qui sont pires. À la Courneuve, il y a beaucoup de décès. Il y a des familles courneuviennes, comoriennes qui ont été endeuillées. Si vous voyez le cimetière de la Courneuve, oh là là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles tombes. Ils ont dit que dans le quartier 4000 Nord à Verlaine, en une journée, les pompes funèbres sont venues récupérer 8 corps. On aura le bilan après à la fin, quand on va voir, quand on va dire alors l'autre on la voit pas, parce qu'on n'a pas les numéros de tout le monde. Comme par exemple l'autre jour, j'ai appris que dans mon bâtiment, mon voisin du premier étage était atteint et que l'ambulance, tout ça, sont venus le chercher. Comment on pourra avoir de ces nouvelles? Je sais pas. S'il est en vie ou s'il est décédé, je sais pas. Et j'espère que les gens tireront des leçons de cette crise, de ce virus qui touche même les intouchables. L'égalité n'est pas prête à être, mais au moins, je pense que ça apaiserait les gens, que les gens réfléchissent mieux, pour mieux s'organiser. On a des jeunes qui en amoureux, j'ai Mourad, qui est au 7e étage, il fait beaucoup de choses, hein. Un jour, il a sonné à ma porte, il m'a donné des yaourts. Il m'a donné un grand sac que j'ai partagé moi aussi avec mes amis. J'ai donné un peu à Mylène, un peu à Nathalie, un peu à Razika. Donc les gens vivent bien entre eux, il n'y a aucun souci, on se respecte, on vit ensemble, on partage tout. Mais pourquoi on n'est pas accepté par les autres qui vivent de l'autre côté du périphérique? Ils ont fait beaucoup de bruit, comme quoi nous, la banlieue, on respecte pas le confinement. C'est vrai, il y a quelques jeunes qui ne respectent pas le confinement. Je ne dis pas qu'il y a zéro. Mais à Paris aussi, apparemment, il y a quelques-uns qui ne respectent pas. J'ai l'impression que nous-mêmes, parce qu'on habite le 93, on est un virus. On est entassé dans notre banlieue. Les gens, ils croient que derrière le périphérique ou la Courneuve, il n'y a que des balles. Non, on vit normalement comme partout ailleurs. Mais c'est les discriminations vues de l'autre côté qui nous font mal.
Donc Ali Djouhara, 33 ans, j'habite à La Courneuve, je suis né à La Courneuve, même s'il n'y a pas d'hôpital, je suis né chez moi. Donc c'est un peu la particularité que j'ai ici. On ne doit pas être beaucoup, mais j'ai fait toute ma vie ici. Je suis responsable associatif bénévole à l'association Assad pour Action de Solidarité pour l'Autonomie Durable. Nous, dans l'association Assad, on suit un peu plus de 150 et 170 gamins. On a 3 locaux. Les 3 locaux sont fermés depuis le début de la crise. Aujourd'hui, on est incapable de vous dire combien de gamins s'inscrivent dans cette continuité pédagogique. Combien de gamins suivent des cours. Je crois qu'ils sont très peu. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'imprimante, il n'y a rien. Il y a pourtant des téléphones portables, mais moi je me suis rendu compte que beaucoup de gamins faisaient du partage de connexion. Un avait de la connexion Internet et 3 n'avaient pas.
Et vous avez trouvé des systèmes D, vous avez innové ou vous faites quoi?
Je ne peux pas être plus clair, désolé, mais on ne peut pas, on n'a rien. On n'a rien. Nous avons, nous les enseignants, nous les responsables associatifs, etc. Mais de l'autre côté, si les gamins n'ont pas, je vois pas comment on pourrait créer des solutions. Je sais pas comment on peut faire. On peut rien faire. Aujourd'hui, on est complètement démunis. Moi, il y a à peu près 2-3 semaines, j'ai fait un texto à l'ensemble des parents. Sur l'ensemble des parents, il y a peut-être 30 ou 40% qui m'ont répondu en me disant oui, on continue à travailler, c'est pas facile. Ah oui, les parents ne peuvent pas s'improviser professeur du jour au lendemain. Il y en a qui ne maîtrisent absolument pas les rouages autour de tout ça. Il y en a qui font beaucoup confiance aux gamins. Il y a les plus grands qui vont aider les plus petits, et ainsi de suite. Mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, je pense que ces deux à trois mois de confinement, de mesures liées à la crise sanitaire, vont être scolairement dévastateurs pour eux. Voilà. Pour moi, c'est une certaine forme de mort cérébrale, mais au niveau de l'instruction scolaire. C'est-à-dire que là, ils ne se stimulent pas au niveau de la scolarité comme ils le feraient en étant sur les bancs de l'école. C'est pour ça que je trouve limite insultant le fait de dire l'école à la maison. On ne peut pas faire l'école à la maison. Ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Il n'y a rien eu pour ce territoire. Il n'y a rien eu du tout. Mais voilà, moi je pense que de toute façon, ce sentiment d'abandon donnera naissance à de la révolte. La révolte populaire, et qu'on vient de pas parler d'émeutes, parce que c'est pas des émeutes, c'est de la révolte.
Je m'appelle Razika, j'habite La Courneuve. Depuis, oula, quand je le dis, ça m'effraie moi-même, 46 ans. J'en ai 50. J'habite le centre-ville de La Courneuve, qui n'a que de centre-ville que le nom. Moi, j'habite au rez-de-chaussée, j'ai la chance de disposer d'un petit jardinier et d'être depuis à pied. Donc, j'ai pu voir que les jeunes, au début, peut-être, la première semaine était un peu, restée un peu dans les halls, sous l'emprise de substances modifiant le comportement, on va dire ça comme ça. Donc, c'est vrai que quand vous rentrez chez vous, que vous êtes dans le hall et qu'il y a un nuage de fumée de cannabis, et avec des gens en nombre, forcément, ça fait flipper, quoi. L'odeur du cannabis, c'est quand même assez entêtant. Le cannabis, le trafic est visible, sur couvert de livraison, de voilà. Il y a bien une chose qui ne s'est pas arrêtée, c'est bien ça. En Seine-Saint-Denis, pour le shit, non, il n'y a pas de pénurie. C'est apparemment, dans mon bâtiment, il y a un réseau qui est clairement identifié, mais ils n'arrivent pas à mettre la main sur le truc. Ils savent. Apparemment, les quantités sont pas suffisamment importantes. Ça suffit pour éclater le cerveau des jeunes. Ouais. Et la prise de conscience est venue progressivement. Elle est venue pour les jeunes, j'entends. J'ai mon fils qui, à cause de sa dépendance au shit, au cannabis, voilà, son médecin psychiatre référent était réquisitionné. Parce qu'à La Courneuve, les bons médecins, je vous parle vraiment des bons médecins compétents, ça ne court pas les rues, quoi. Et donc, on a eu affaire à un autre psychiatre au CMP de La Courneuve, et là, c'est... Franchement, je me suis sentie dans une situation d'isolement, mais un truc de malade. Il n'y avait pas de communication. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'a pas voulu lui faire son injection. Alors que, voilà, quoi, j'accompagne mon fils depuis octobre dans son rétablissement. Et là, j'ai l'absence de communication et de prise en compte de la parole
du patient et des accompagnants, ça a été très compliqué pour moi. Ça a démarré, on en a parlé là il y a pas longtemps, puisqu'on passe, moi je fais une heure avec la dérogation patati patata. Et donc on se fait une balade par jour. Je veux qu'il marche un peu physiquement, qu'il fasse du vélo elliptique à la maison. Et donc on en a parlé, c'était au collège Poincaré à la Courneuve. Et ça s'est poursuivi au lycée Jacques Brel à la Courneuve. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez que quand vous êtes au lycée, vous êtes considéré comme riche. Et généralement, vous allez en truc technique, là. Donc là-bas, il y a tout un réseau qui s'est structuré, qui s'est organisé. Donc voilà, ils font leur business, quoi. Et après, ils les utilisent pour faire des courses. Pour livrer, quoi. C'est comme ça que ça a commencé. Ils connaissaient des gens de ce réseau-là qui viennent le solliciter. Il a fait une crise en octobre 2019 sous l'effet du produit. Et il n'a pas mesuré sa force et qu'il voulait rentrer absolument à la maison et qu'il m'a fait très très peur, quoi. Il a éclaté la porte d'entrée de l'immeuble. Bon, il était en crise, quoi. J'ai attendu que ça se calme. Je me suis réfugiée avec mon chat. J'avais fermé tous les volets. Donc j'ai attendu que ça se calme et avec la parole, avec et après il m'a expliqué ce qui s'était passé dans sa petite tête, les hallucinations auditives et visuelles. Et aujourd'hui donc voilà, il a conscience, il a le désir d'arrêter de consommer. Il est étudiant à l'université. Ça l'a pas empêché de passer son bac avec mention, mais ça a eu des séquelles quand même. Aujourd'hui il a 20 ans. Voilà, pour l'instant il est encore sous traitement pour aujourd'hui, mais ça devrait un jour à la fois tranquillement. Voilà, pour l'instant. On en est là. Après, moi, ce que j'ai vu et qui m'a... Donc là, mais ce dont je suis le plus contente, c'est qu'il y a le Garage Solidaire qui a fait un atelier de couture, là. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Ça, j'ai trouvé ça cool, parce que... À l'origine, c'est pour réparer les voitures. Donc, alors, pour ceux qui savent coudre, il leur demande de venir au garage avec la distanciation sociale. Après, il dit, si vous avez des compétences, venez, on a besoin de mains. Et après, il prépare des kits pour les couturières, pour ceux qui font à domicile. Ça, je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça pas mal. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que malheureusement, ce qui s'est développé, c'est plutôt un business au niveau des masques, quoi. Il y a des gens qui font des masques à 5 euros, 7,50 euros, mais je trouve ça scandaleux. Enfin, j'ai pas de jugement à porter, mais je trouve ça, moi, ça me choque, voilà, ça me choque.
J'aimerais nous monter les uns contre les autres, mais si Dieu le veut bien, ce sera les gens simples contre les ordres. Enfants du siècle, avançons le point levé, jeunesse et peuple du tiers-monde, nous marcherons à tes côtés, ta lutte est la nôtre, tout comme notre lutte est la tienne. Justice et liberté pour tous les habitants de la terre, sèche tes larmes et relève la tête, on est badaille, le combat nous attend, toi sera le premier champ de bataille. Résistance, on a dit non, on a le nombre, jeunesse du monde, ce sera plus jamais sans nous. Dignité et conscience, on est des milliards à vouloir faire tourner la roue dans l'autre sens. Des pays oubliés jusqu'aux oubliés de nos pays.
C'était Banlieue confinée, on la joue collectif, un reportage de Valérie Borst réalisé par Clémence Grosse et mixé par Philippe Mercher. Merci à Mebrouka, Razika, Ali, Ousmane, Bachir, Mustapha, Shiraz, Teddy et Roxane. Et c'est également Roxane, une Roxane Poulain, l'attachée de production des Pieds sur Terre et notre stagiaire. Grande chef des réseaux sociaux, des stories Instagram, des tweets et des posts, c'est Sarah Jerry-Wee et on la remercie au passage.